littéraire consacré à la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est vrai que s'il y a bien un sujet qui est énormément traité en littérature, c'est sans doute cette période historique. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir comment on peut le traiter de différentes manières. Et là, pour le coup, vous allez voir qu'on a vraiment des manières très très différentes de traiter le sujet. Aussi bien de la part de Laurent Binet, à qui j'ai énormément de questions à poser, parce qu'on est là, vous allez voir, dans un cadre un peu particulier si vous n'avez pas encore lu HHHH. Mathilde Tournier qui est avec nous, jeune auteur avec qui on va parler de la guerre en Alsace, et en particulier du dilemme des Alsaciens au moment de cette nouvelle annexion et des choix qui vont se poser. Et du destin finalement que ça va changer. Puis Paul Couturiot, qui lui fait un roman avec les secrets de Margaret à mi-chemin entre le roman plus contemporain, puisque le principal, le cœur de Matrix, se passe en 1980, mais puise toutes ses racines également dans le deuxième conflit mondial. Je vais d'abord commencer par Laurent Binet, avec une question simple. Pour ceux qui n'auraient pas lu, ça veut dire quoi, HHHH?
C'est un acronyme en allemand qui signifie... Enfin, donc... La phrase complète en allemand se dit Himmler's Hirn heißt Heydrich, et ça veut dire le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich, parce que Heydrich était le bras droit d'Himmler, qui était le chef de la SS, et c'était une blague chez les SS pour dire qu'en fait le vrai patron de la SS c'était plutôt le numéro 2 que le numéro 1. C'était d'autant plus une blague qu'en allemand, HHHH se dit ha 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 ha.
Voilà, ça c'est pour le point de départ. Il se trouve que donc HHHH raconte l'assassinat d'Heydrich en 42 à Prague, si je ne dis pas de bêtises, j'ai bien révisé mes fiches. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment un roman historique?
Eh bien, oui, je me suis beaucoup posé la question. En fait, même au départ, je pensais que non, parce que c'est une histoire vraie, que tous les personnages ont existé et que j'ai rien inventé. Je me suis même battu pour ne rien inventer parce que j'étais... j'ai été tenté à plusieurs reprises de le faire, mais en fait, cette histoire-là, la carrière d'Heydrich et l'histoire de l'attentat est tellement extraordinaire que j'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et puis c'était aussi pour moi une façon de rendre hommage aux parachutistes qui ont abattu Heydrich, qui ont accompli là, à mon avis, un des actes de résistance les plus spectaculaires de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est la seule fois qu'un dignitaire nazi de cette importance s'est fait abattre dans toute l'histoire du Troisième Reich. Heydrich, c'était pas simplement, il était protecteur de Bohème-Moravie, donc en gros gouverneur de l'actuelle République tchèque, mais il était aussi donc numéro 2 de la SS, chef de la Gestapo et chef du SD, les services secrets nazis. Et donc c'était vraiment un des pivots du Troisième Reich. Voilà, quelle était la question déjà?
Est-ce que c'est vraiment un roman historique? Parce que faut quand même préciser que c'est aussi une autofiction.
Oui, alors non, je suis pas d'accord, c'est pas une autofiction, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma problématique très vite, ça a été de me dire, mais comment est-ce qu'on en raconte une histoire vraie? Je voulais insister sur le fait que c'était une histoire vraie, justement, voilà, donc c'est ce que je vous disais, pour rendre hommage aux parachutistes. J'avais l'impression que si je commençais à inventer, à bidouiller, à fictionnaliser, d'une certaine manière, je les trahissais un petit peu. Donc je me suis vraiment attaché à raconter, à rester au plus près possible des faits, mais j'ai eu envie que le lecteur ait conscience de ça, de cet effort, et donc j'en ai discuté avec le lecteur quand j'étais confronté à des questions, des doutes, des hésitations, quand je commettais des erreurs ou quand j'étais tenté d'inventer. Il y a quelques chapitres où j'ai inventé, mais ces chapitres-là, au lieu de les supprimer, je les ai conservés pour pouvoir, dans le chapitre d'après, les signaler et en discuter avec le lecteur et faire part là, de tout ce que je suis en train de vous raconter.
Alors ça va loin, parce que ça va jusque parfois au menu du petit déjeuner des personnages principaux le matin de l'attentat.
Oui, alors je me souviens plus du.
C'était au café et la grande question.
Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est à dire que en fait c'était aussi voilà, c'est à dire pour rendre compte du problème que ça me posait. En fait, quand je pose la question de la couleur de la voiture ou thé ou café, c'est plus évidemment que ça change rien à l'histoire que fondamentalement que la Mercedes soit verte ou soit noire. Mais c'était une manière justement pour le lecteur, de faire comprendre au lecteur quelle était l'ampleur de mon obsession, et c'était aussi une manière de me moquer de moi-même, de me moquer de mon espèce d'obsession maniaque sur les détails, quoi. Et sur cette espèce de quête de la vérité qui est évidemment impossible. Mais disons, je trouvais ça bien, je sais qu'on ne peut pas vraiment atteindre la vérité, mais je trouvais ça bien d'avoir la vérité comme en ligne d'horizon au moins.
Mathilde Tournier, comment est née cette trilogie, puisque c'est... précisons-le, hein, c'est pour ça que les trois livres sont là, ce sont trois récits qui s'enchaînent, même si on peut quand même les lire indépendamment, mais enfin c'est quand même mieux de suivre les personnages d'un bout à l'autre.
Oui, oui, c'est chronologique.
Alors comment est venue l'idée, justement, hein, moi c'est ça qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est un sujet, je trouve, qui n'a pratiquement jamais été traité. Pourtant, c'est un formidable sujet romanesque, la situation de l'Alsace au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors oui, c'est vrai que ça a été traité, mais finalement par les témoins directs, pas vraiment, je pense pas, enfin pas à ma connaissance, tellement par le biais de la fiction. Moi, c'est vrai que justement, je me suis intéressée à cette histoire de l'Alsace par le biais d'une lecture qui était Les Mémoires de jeunesse de l'illustrateur alsacien Tom Jungerer. C'est un petit livre très chouette qui s'appelle À la guerre comme à la guerre, où il raconte son enfance dans l'Alsace annexée. Et moi, je suis pas du tout alsacienne, c'est justement une problématique qui m'est venue, un pan de l'histoire et de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, qui est une période qui m'intéressait beaucoup, qui m'était totalement méconnue, puisque justement, moi, je suis originaire du Sud-Ouest, je ne suis pas du tout alsacienne. Et justement, c'est en lisant ce livre de Tom Jungerer que je me suis rendu compte que ce sujet-là n'était pas tellement abordé, était très méconnu du reste de la France, finalement. Et aborder des questions beaucoup plus larges, comme la question de l'identité, la question de la responsabilité, la question du choix. Et donc c'est parti de là. Et voilà.
On a un personnage qui se retrouve dans une situation incroyable. Il a fait la drôle de guerre avec l'uniforme français. Il rentre chez lui parce que la guerre est terminée. Et là, d'un seul coup, il est enrôlé dans la Wehrmacht.
Et oui, ça malheureusement, ça a été, c'était le lot de nombreux jeunes Alsaciens qui justement ont été confrontés à cette situation totalement, totalement absurde de devoir porter un uniforme puis l'autre. Et c'est vrai que c'est une situation qui fait réfléchir même à l'absurdité de la guerre. Et je me disais, c'est presque très symbolique. Et moi, c'est aussi ça dans cette histoire qu'ont vécu l'Alsace et la Moselle qui m'a plu et qui m'a vraiment fortement intéressée, justement, qu'on a énormément de situations très symboliques, finalement.
Alors, on y reviendra parce qu'évidemment, il y a tout un aspect romanesque aussi au travers d'un deuxième personnage qui fera un autre choix de vie. Paul Couturiot, Mathilde a prononcé le mot Moselle avec vous. On va y aller en Moselle pendant la guerre. Là aussi, j'imagine qu'il y a des problématiques proches quand on choisit de traiter cette période précisément de la Deuxième Guerre mondiale dans une région comme la Moselle.
Mais oui, parce que comme l'Alsace, la Moselle a été une région qui était déchirée. Et j'ai réalisé hier, après le café littéraire qu'on avait eu, qu'en fait, j'ai cette double déchirure, puisque je suis aussi, je suis belge, mes grands-parents maternels sont médecins, enfin, mon grand-père était médecin, et en Belgique, il y avait le même problème, il y avait aussi une déchirure entre la Flandre, qui avait des aspirations plus au Reich, la version flamande du Reich, et la Wallonie, qui était plus... tendance française, alliée, etc. Mes grands-parents, eux, vivaient à Metz. Ma grand-mère était originaire de Trèves, où ma mère est née. Elle l'a emmenée, quand elle avait 11 ans, à Metz, donc en 1935. Donc ma mère, qui était allemande, est devenue française, est devenue aussi la fille d'un Français. Elle s'est fait traiter de boche. Et quelques années après, elle redevenait allemande, vu l'annexion, avant de redevenir française encore une fois. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles dans cette région qui ont connu ce déchirement, d'avoir une partie de la famille en Allemagne, l'autre partie en France. Et je n'oublierai jamais cette anecdote que m'avait raconté mon grand-père. Lui portait l'uniforme français pendant la drôle de guerre. Il se retrouve avec un ami dans les bois à monter la garde, et tout à coup ils entendent du bruit. Il met en joue le soldat allemand qui s'approche, et son copain lui baisse son fusil en disant: fais pas ça, pote, c'est mon cousin. Et donc ils ont grillé une cigarette ensemble, et l'un est parti vers les troupes allemandes, l'autre vers les troupes françaises. Mais bon, c'est pas de la collaboration à ce niveau-là. C'est ce drame humain, moi, qui m'a intéressé.
Laurent Binet, les deux assassins d'Heyrich, il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que je trouve que c'est extrêmement symbolique. Si je ne me trompe pas, il y a un Tchèque et un Slovaque.
Ben oui, parce que l'invasion allemande a disloqué les deux pays. Les Slovaques, pour conquérir leur indépendance, ont fait alliance avec... enfin, les Slovaques. Les dirigeants slovaques ont fait alliance avec l'Allemagne nazie. Ils sont devenus un État nazi, un État satellite du Reich, mais avec une relative indépendance. Et le De Gaulle tchèque, Beneš, l'ancien président tchèque, était parti se réfugier à Londres, comme De Gaulle, et lui continuait à assurer, comme De Gaulle, un gouvernement en exil, qui était un gouvernement tchécoslovaque. Et quand il a décidé de frapper un grand coup, d'abattre donc Heydrich, qui était gouverneur de Bohême-Moravie, il a tenu absolument à ce qu'il y ait l'un des critères de sélection des parachutistes. Donc évidemment, il fallait que ce soit des commandos hors pair, mais l'un des critères, c'était qu'il fallait qu'il y ait un Tchèque et un Slovaque. Et donc Gabčík, c'est le Slovaque, et Kubiš, c'est le Tchèque, de Moravie d'ailleurs.
Ils savent dès le départ que c'est une mission sans retour.
Alors bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, ils signent, on leur explique qu'ils n'ont pas une chance sur 1000 pour s'en sortir, que c'est probablement une mission suicide, et ils sont prêts à sacrifier leur vie pour abattre Heydrich, mais mine de rien, ils mettent des mois et des mois à organiser l'attentat, et ils vivent à Prague, donc dans la clandestinité, et puis bon voilà, ils sont jeunes, ils ont 30 ans, ils se trouvent des petites copines, Gabčík qui veut se marier avec elle après la guerre. Ils décident d'une date symbolique, ils disent qu'ils vont voir un prêtre et ils disent bon, notre mariage ce sera 15 jours après la fin de la guerre, c'est-à-dire une date symbolique qui évidemment n'existe pas encore et qui est indéterminable à l'époque, surtout en 42, à l'époque où la victoire semble encore très loin parce que le Reich n'a jamais été aussi fort qu'en mai 42, c'est vraiment l'apogée quoi.
Heydrich est clairement positionné comme étant...
Heydrich, c'est le bourreau de Prague.
C'est la figure qui monte. Hein,
oui, c'est celui... C'est celui que tout le monde s'arrache, en fait. Bormann, Göring, Himmler, tous veulent avoir Heydrich avec eux. Et en fait, Heydrich, prudemment, reste fidèle à Himmler, mais c'est une figure montante du Reich. Et donc, Gabčík et Kubiš, quand même, ils envisagent différents plans pour abattre Heydrich, mais ils disent quand même, si on peut essayer de s'en sortir, ce serait pas mal. Et donc, en fait... Ils envisagent un plan, ils rejettent un plan où en fait ils avaient pensé à intercepter la voiture en pleine rase campagne, mais là ils savaient que c'était trop près de chez Heydrich, ils savaient que l'alerte serait donnée trop vite, et là c'était vraiment une mission suicide. Et finalement ils trouvent ce virage dans les faubourgs de Prague où ils se disent que là peut-être ils ont une chance de s'en sortir parce qu'ils sont en ville, ils peuvent se perdre dans la foule, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'escorte avec la voiture d'Heydrich. Et ils avaient demandé à des complices, des résistants tchèques, de relever les déplacements d'Heydrich et de dire quand est-ce qu'il avait une escorte, quand est-ce qu'il n'avait pas d'escorte. Et en fait, c'était complètement aléatoire. C'est-à-dire que finalement, ils ont bien dû fixer un jour pour l'attentat. Et ce jour-là, ils ne savaient absolument pas s'il allait y avoir une escorte ou pas. Et il n'y en avait pas ce jour.
Jeune idiot hein, qui est allé chercher un mot de retard chez le directeur.
Ouais, j'ai bien suivi effectivement l'attentat, la mort d'Heydrich. J'ai rattrapé le coup.
Je vais te laisser souffler. Mathilde, on a parlé du premier des personnages, hein, qui est ce garçon qui lui va se retrouver vraiment déchiré entre. Parce qu'il a le sentiment d'être français d'abord, enfin alsacien français, mais il a son alter ego en face qui lui, dès le départ, va choisir la voie de l'occupant, allant même jusqu'à s'enrôler dans la SS.
Oui, moi, ce que je voulais, c'était justement pas non plus avoir une histoire manichéenne, pas tomber justement dans le manichéisme facile, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont écrites sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont très présentées souvent. On prend souvent le parti plus des gentils, des résistants. Et donc moi je voulais essayer de montrer des gens ordinaires et de montrer leur évolution. C'est pour ça que j'ai mes livres sont très chronologiques, parce que je voulais aussi montrer cette chronologie, cette évolution, essayer d'expliquer dans la vie passée de mes personnages, dans leurs choix, les choix qu'ils vont faire, un petit peu essayer d'expliquer leur parcours comme ça. Et donc j'ai symboliquement pris deux personnages, l'un qui se sent plutôt français et l'autre qui se sent plutôt allemand, et je vais montrer justement que comment leurs choix vont être différents, mais comment finalement, de manière très absurde, ils vont quand même se retrouver à combattre dans la même armée, puisqu'ils avaient, ils avaient finalement pas autant le choix que ça.
Jusqu'à se retrouver carrément sur le front russe. Hein.
Jusqu'à se retrouver ensemble sur le front russe, oui.
Et puis, bah, quand même, il faut quand même le signaler, mais il y a un autre argument scénaristique ou romanesque, c'est qu'ils sont amoureux de la même femme.
Oui, alors aussi, évidemment, ça, c'est la part de romanesque, c'est la part de symbolique aussi. Vous pouvez presque pas y couper.
Elle symbolise pas un peu l'Alsace, finalement, cette jeune femme?
Quelque part, oui, évidemment.
Parce qu'elle est vraiment, en plus, elle est sincèrement, elle aussi déchirée.
Elle est sincèrement déchirée entre les deux, et effectivement, elle prend le parti, à un moment donné, de l'allemand, avant de, évidemment, se retrouver avec beaucoup plus de questions, et se rendre compte qu'avoir fait le choix de la facilité, c'est pas forcément si évident que ça.
Alors, Johan, on a vu trois styles particuliers, mais où on est vraiment, alors pour le coup, avec des trames de romans historiques, même s'il y a encore une fois des différences et des particularités chez les uns et les autres. Mais toi, tu choisis, en bon auteur d'imaginaire que tu es, de ne pas faire un roman historique. Mais par exemple, quand tu fais Ordre Noir, on est dans l'Uchronie, on est dans le fantastique, on est dans le thriller, on est dans plein de genres.
Dans plein de genres, oui. Ben, disons, la méthode adoptée est celle du thriller. Et dans le fond, on navigue entre plusieurs mondes, donc l'aspect fantastique, ces mondes qui ont pour particularité, contrairement aux nôtres, de n'avoir pas connu la Seconde Guerre mondiale, donc voilà pour l'aspect uchronique, donc l'histoire réinventée, mais, et c'est le fond du propos, le thème, un des thèmes d'ailleurs qui m'intéresse le plus d'explorer dans la plupart de mes livres, on va dire sérieux, le mécanisme de résurgence du mal. Bon, je m'intéresse beaucoup aux problèmes de mémoire, etc. Et à ce qui peut finalement faire revenir ces grands principes. Alors, j'ai appelé Ordre Noir, j'ai nommé ainsi moi ce principe de résurgence du mal symbolisé par les nazis, c'était le nom donné à l'ordre SS. Et c'est pour ça que moi aussi, c'est pour ça que j'ai tendu l'oreille dès que je suis arrivé en retard, d'ailleurs, désolé, parce que bah, le personnage que j'ai choisi pour le symboliser ce retour, c'est Heydrich également, qui, dans mes univers contemporains, est un vieux monsieur, mais qui n'a rien cédé, hélas, à ses pires fantasmes. Voilà, donc, j'essaie de montrer que comment ça pourrait revenir aujourd'hui et pourquoi finalement on a malheureusement peut-être pas forcément tiré toutes les leçons de l'histoire. Mais là, en l'occurrence, cette histoire n'a pas eu lieu, c'est normal, mais ma thèse à moi, c'est que c'est le côté métaphorique du livre, hélas, voilà, dans l'actualité encore récente, un peu plus reculée, nous prouve que on ne tire pas les bonnes leçons. Je suis assez pessimiste à ce sujet.
Comment est-ce qu'on joue avec l'histoire comme ça quand on décide, surtout l'Uchronie, c'est un genre que je trouve vraiment fascinant parce que c'est un petit déclic finalement qui oui. Modifie toute la suite.
Hein. Ah oui,
comme, ouais. Comme un peu des dominos.
Oui, alors bon, là, sauf que là, l'Uchronie est basée sur quelque chose de beaucoup plus énorme, puisqu'on parle évidemment de la Seconde Guerre mondiale, mais une Uchronie peut se bâtir sur le simple fait qu'un matin, tel personnage décide de rester une heure de plus au lit, par exemple, et il n'aura pas accompli telle action, donc de fil en aiguille. 100 ans plus tard, 1000 ans plus tard, le monde sera complètement différent. Voilà. Bon, là, j'ai choisi un autre aspect, mais ce qui me paraît important, c'est que même si je présente ça sous forme de fiction, de science-fiction, de fantastique, je m'oblige à poser des fondations historiques solides. Il me semble justement qu'on peut aller le plus loin possible dans l'imaginaire sur ces thèmes-là, si la base est solide. J'ai tout fait, dévoré le nombre de biographies, Heydrich en particulier, mais de plein d'autres personnages, même si je n'ai fait pas d'ailleurs apparaître, parce que je ne voulais pas apporter une trahison, je dirais, par rapport à qui ils étaient réellement, surtout pas.
Alors maintenant, on va demander à Laurent Binet de vous faire une Uchronie en direct. Parce que la question, c'est, et si Heydrich n'était pas mort, est-ce que c'est pas finalement, même si c'est pas forcément l'événement qu'on retient le plus naturellement, cet assassinat d'Heydrich, est-ce que c'est pas un moment capitale de la Seconde Guerre mondiale?
Non, je crois pas qu'on puisse dire ça. Évidemment, moi j'adore le principe du SI, j'adore le principe des Uchronies. Évidemment, je me suis posé la question. Il y a des tas de gens. Heydrich, c'est une figure très. C'était vraiment l'archétype du nazi idéal, et pour des tas de raisons, et parce que l'un de ses surnoms, c'était l'homme le plus dangereux du Troisième Reich. C'est une figure qui inspire beaucoup, justement, l'imaginaire des gens. Et assez tôt, on se demandait si il n'aurait pas pu succéder à Hitler. Bon, mais c'est évidemment une interrogation à laquelle il n'y aura jamais de réponse, et bon, tant mieux. Hein. Mais c'est sûr qu'il était, ouais, c'était,
il était sans doute plus convaincu que certains autres dignitaires nazis qui étaient plus opportunistes, non?
Non, je crois pas, en fait. Il y a deux grands types de chefs nazis, il y a les cyniques et les fanatiques, mais en fait, c'est jamais du 100%, Goebbels avait une part de cynisme, Göring avait quand même, devait être un peu nazi aussi, il n'était pas qu'un opportuniste. Et Heydrich était un peu entre les deux. Il était vraiment, il était d'autant plus antisémite que dans son enfance, tout le monde l'avait harcelé parce que on croyait que lui était juif. Et à l'école, il était moqué par ses camarades parce qu'il se faisait accuser d'être juif. Mais en même temps, il était ultra carriériste et il était bon, voilà, c'est-à-dire.
Oui, tout à fait d'accord. À mon sens, il incarnait aussi pas. Une sorte de caricature de la mécanique comme nazi. Il avait ce côté, dans des objectifs effectivement très carriéristes aussi, mais oui, il était une sorte d'incarnation très mécanique de ses principes.
C'est-à-dire, oui, enfin, il avait des compétences qui s'accordaient très bien avec les tâches qu'on lui confiait, et notamment des compétences qui ne sont pas spécialement. Auquel on pense pas systématiquement quand on pense à l'espèce de légende noire des nazis, c'était un bureaucrate hors pair, et la bureaucratie c'était un élément essentiel du Troisième Reich. Ensuite, est-ce que sa mort a changé quelque chose au cours de la guerre? Non, manifestement, il était chargé de la solution finale, il a eu le temps de la planifier, et sa mort n'a pas empêché son application.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus jusqu'au boutiste que certains autres?
Ils ont tous été quand même largement jusqu'au boutiste. Il aurait été plus efficace, je pense. Voilà, Himmler a été moins efficace sans lui qu'avec lui, le remplaçant d'Heydrich.
C'était ce côté de l'ultra-bureaucrate, justement, qui déshumanisait, mais vraiment totalement, il me semble, par rapport aux autres. Je ne vais pas non plus humaniser les autres, c'est pas le propos, mais je peux me tromper, mais il me semble qu'il avait ce degré supplémentaire, oui, de désincarnation de son propos, qui faisait une machine froide et hyper efficace.
Ouais, au niveau en dessous, et c'était le niveau qui suffisait ensuite pour appliquer, c'était Eichmann. Et Eichmann aussi, bon voilà, ce qui intéressait Eichmann, c'est que les trains arrivent à l'heure, mais c'est cette méticulosité qui a permis le génocide. Et donc Heydrich, une fois qu'il a présidé la conférence de Wannsee en janvier 1942, où là on décide de passer à la phase industrielle de l'extermination, il a fait son travail. Et au niveau des... Bon, voilà, la mort d'Heydrich n'a pas sauvé de Juifs, il faut le dire. Simplement, bon, voilà, c'est-à-dire ça a été quand même... Je crois que Hitler a dit que c'était comme la perte d'une bataille, quoi. Bon, donc voilà, c'est-à-dire c'était... Mais ceci dit... au niveau psychologique, au niveau symbolique, abattre une figure de cette importance en 1942, c'était un moment très fort. C'était vraiment un symbole, un signe pour toutes les résistances de l'Europe. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, ça a eu un impact.
Paul Couturier, dans les secrets de Margaret, dans les silences, pardon, de Margaret, la trame de l'histoire se passe en 1981, donc on est pratiquement 40 ans après la fin de la guerre, sauf que tout découle de cette Deuxième Guerre mondiale.
Oui, et en fait, parce qu'il y a énormément de non-dits dans cette famille, donc le roman démarre sur un meurtre, la police a une suspecte, son frère est avocat, il est persuadé que sa sœur est innocente, donc il va prendre l'affaire en main, et ça va l'amener à remonter dans le passé de sa grand-mère, et donc le ramener en 1910, la naissance de la grand-mère, qui naît dans une Allemagne forte et puissante, et puis qui vit l'humiliation de l'Allemagne, mais qui a cette chance d'avoir un père qui n'a pas du tout un regard fanatique, mais qui a un regard de pacifiste et qui voit les choses avec beaucoup de cynisme, d'une certaine manière, d'ironie plutôt, et en se disant, bon, on se fait rouler dans la farine, des uns comme les autres, d'un côté de la frontière comme de l'autre, on est manipulé, la réalité n'est pas là. Et il va mourir comme ça, et chez elle, ça va provoquer un traumatisme de père du père, mais d'adulation, et elle va le prendre en exemple, alors que sa sœur, elle, va en nourrir une haine de la France, et donc va, dès que l'idéologie nazie va apparaître, elle va adhérer à cette idéologie. Alors que Margaret, c'est exactement l'inverse. Elle, c'est, elle va dans la voie de son père, le refus de la guerre, le pacifisme, donc elle ne peut pas accepter cette démarche bien avant que les nazis prennent le pouvoir, déjà, il y a ce rejet.
Si je parle de ses racines et de cette influence, c'est parce que on doit forcément se poser la question quand on traite de cette période sur la Moselle, parce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui ont vécu cette période, il y a encore des gens qui sont très fortement marqués par cette période.
Mais oui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, ça m'a valu au Salon du Livre de Metz la visite d'un ancien voisin de mes grands-parents qui est venu de manière un peu agressive me secouer en me disant, enfin, vous parlez de non-dit, il n'avait pas encore lu le roman. Vous parlez de non-dit là-dedans, c'est quoi cette histoire, c'est quoi? Et en fait, il avait peur, quelque part, que je dise du mal de mes grands-parents, ou que je dise non-dit, donc ma grand-mère était allemande, donc elle avait des sympathies nazies, et ça, et je lui dis non, c'est pas du tout ça. Le non-dit se passe ailleurs, par rapport à pourquoi je n'ai pas été élevé avec ma sœur, pourquoi mon grand-père n'est pas mon grand-père, etc., tous ces éléments-là, qui m'a amené à explorer tous les déchirements de la famille. Et là, il s'est calmé, mais j'ai vraiment vu qu'au départ, parler de non-dit, ça a réveillé en lui une peur que je dise des choses qui puissent... Et du coup, quand il s'est calmé, il m'a dit, mais tu sais, ton grand-père, c'était vraiment un type bien. Parce que mon grand-père était pompier, donc français, devenu allemand, redevenu français, etc. Comme tout le monde dans la région. Et lui, il a continué son métier de pompier en se disant, ben, d'une certaine manière... C'est un moyen de continuer à sauver des vies de Lorrains, de Français, puisque je suis à la ville de Metz, c'est des Français avant des Allemands. Voilà, donc c'était sa manière à lui de continuer à vivre dans sa résistance à lui.
Mathilde, un peu même question. Il y a encore aussi beaucoup de gens qui ont vécu les événements dont vous parlez dans cette trilogie. Est-ce que vous êtes allé parler du livre en Alsace déjà ?
Oui, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des Alsaciens et même ailleurs qu'en Alsace aussi, j'ai rencontré des gens d'origine alsacienne. J'avais de toute façon, quand j'ai terminé le premier tome, je l'avais fait relire par la grand-mère d'un ami à moi qui est alsacienne, une vieille dame alsacienne, qui du coup aussi a pu me conseiller. Moi, c'est vrai que quand je discute avec des Alsaciens, mon objectif, c'était aussi d'arriver à, avec ma distance, à recréer ma distance, donc à la fois géographique et historique, puisque je ne suis pas de la même génération, arriver à comprendre cette période et à recréer une atmosphère. Et c'est vrai que il m'est arrivé d'avoir des vieux Alsaciens, justement, qui avaient vécu la période, qui me disait qui était reconnaissant, parce que il me disait, ah ben on s'y retrouvait, c'était vous avez bien réussi à repeindre, à appréhender notre époque. Mais il y a aussi des gens qui veulent pas en parler. Et d'ailleurs, c'est marrant que vous me parliez du salon de Metz et de cette réaction, parce que il y a je crois 5 ans, c'était mon tout premier salon, le salon de Metz. Et j'ai eu une très mauvaise expérience d'une dame qui est arrivée, qui a vu, à l'époque il n'y avait que le premier livre qui était sorti, et une dame qui arrive et qui regarde mon livre et qui me dit que non, mais que j'ai pas le droit de parler de ça parce que les Alsaciens c'était tous des bourreaux et que c'était eux qui avaient fait Oradour sur Glane et qu'on n'avait pas le droit de parler de ça. Et moi j'ai essayé de lui dire que justement c'était avec ma distance que j'ai essayé de dépassionner le sujet, de lui faire comprendre que tout n'était pas noir et tout n'était pas blanc, justement. Est-ce que c'était en essayant d'avoir une espèce de distance avec les événements et de faire la part des choses qu'on arriverait à avoir un débat dépassionné et à montrer que tout n'est pas noir ou blanc? Elle m'a dit, bah, moi, vous avez peut-être votre opinion, moi j'ai la mienne. Et elle est partie, après, alors que bon, elle n'avait pas lu le livre, elle a juste regardé le résumé. Et ça m'est arrivé dans l'autre sens.
C'est encore la fleur de peau, vraiment.
Oui. Ça m'est arrivé aussi une fois à Toulouse, d'un homme, j'avais enregistré une émission pour une station de radio à Toulouse. Et c'est une émission qui était en public. Et un homme qui après, pareil, vient me voir, me prend à partie, me dit, moi je suis, c'était l'inverse. Moi, je suis alsacien, vous n'êtes pas alsacienne, vous n'avez pas le droit de parler de l'Alsace, vous ne comprenez rien, moi, je suis strasbourgeois, vous ne pouvez pas appréhender cette histoire, vous ne comprenez rien, il n'avait pas lu le livre non plus, hein. il venait là, et bon, moi, j'ai essayé de lui dire que... J'ai essayé aussi de lui dire donc voilà, que moi justement j'ai essayé de faire quelque chose de très dépassionné, mais c'est ce genre de personne malheureusement avec qui on ne peut pas discuter.
C'est intéressant que vous disiez ça parce que Laurent, vous vous êtes retrouvé un peu à corps défendant dans une polémique littéraire. Alors vous étiez du bon côté, à la limite ça allait, mais votre camarade Yannick Enel, il en a quand même pris plein la figure pour un roman qui s'appelle Yann Karski, et en particulier de quelqu'un qui s'appelle Claude Lanzmann, qui est donc l'auteur de Shoah, qui est quelqu'un d'absolument... insoupçonnable, mais qui a quand même mis un pavé dans la mare, et je ne peux pas ne pas poser la question dans un festival d'imaginaire, puisque un des arguments qu'il a avancé, c'est de dire quand on n'a pas vécu une période, on ne peut pas en parler.
Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça, et d'ailleurs, il a beaucoup aimé mon livre, alors que je n'ai évidemment pas vécu la période. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est-à-dire que, évidemment, que l'invention romanesque, c'est quelque chose de formidable. Et évidemment qu'on a le droit d'inventer, on a le devoir quand on fait de la littérature. Et quand on fait des uchronies, ou quand on fait des fantaisies, ou quand on. Enfin, il y a des tas de situations où on a le droit. Le problème, c'est qu'il y a une frontière qu'on franchit où là, l'invention devient falsification. Et moi, je suis assez d'accord avec Claude Lanzmann. Par ailleurs, le livre de Yannick Enel, je l'ai apprécié pour ses deux premières parties où il résumait de façon tout à fait fidèle et intéressante la carrière de ce résistant polonais qui était Jan Karski. Et ensuite, dans la troisième partie, il invente des scènes où il imagine ce Jan Karski face à Roosevelt et il montre Roosevelt qui s'en fout parce que les Juifs en Europe, ils s'en foutent et donc il préfère regarder les jambes de sa secrétaire, il digère son bon repas qu'il a mangé, etc. etc. Et Lanzmann dit non, cette scène, elle n'a jamais existé. Et là, le problème, c'est que c'est une scène inventée pour prouver, pour démontrer une thèse qui est les Occidentaux, ils s'en foutaient des Juifs. Pourquoi pas ? Une thèse, ça se discute. C'est une hypothèse, pour être exact. Une hypothèse, ça se discute, mais une hypothèse, ça doit se démontrer. Mais on ne peut pas la démontrer avec une scène qu'on a inventée. Et donc voilà, vous voyez, là, l'invention devient falsification parce qu'elle est au service... c'est comme une fausse preuve, si vous voulez. Et donc, dans ces cas-là, il y a un problème.
Mais est-ce que si cette polémique avait lieu... Non, justement. Est-ce que si ce débat avait lieu sur une toute autre période historique que celle-là, est-ce qu'il y aurait une telle polémique ?
Bien sûr que non, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathilde. Moi, je pense que c'est bien de faire la part des choses et de réfléchir, mais dépassionner, le terme me semble... Enfin, c'est impossible de dépassionner cette période, c'est impossible. Ce sera possible dans 100 ans, même dans 50 ans, je ne suis pas sûr, quoi. Mais disons, il faudra vraiment que les petits-enfants soient morts pour qu'on puisse avoir une approche dépassionnée. Non, bien sûr que non, c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale, c'est un épisode récent, qui en plus, à bien des égards, est complètement unique dans l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est un tel événement total, où il se passe tellement de choses, où c'est tellement horrible, etc., que, évidemment, que c'est le sujet ultra sensible par excellence, et spécialement dès qu'on touche à la question du génocide des Juifs. Bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Mais cependant, moi, ça, si vous voulez, dans l'absolu, ça m'énerverait autant. Ce même type, si moi je m'intéresse à une période historique, si je m'intéresse à Napoléon ou à la guerre de 100 ans, si on m'explique des trucs, si on m'explique que Charles VII, il n'a pas fait ce qu'il aurait fallu à partir d'une scène qui est sortie de l'imaginaire d'un romancier, eh ben ça m'ennuiera tout autant. Si on me dit, oui, Napoléon, etc., Austerlitz, alors que ça ne s'est pas passé, ben dans ce cas-là, on est dans autre chose. Alors, si on dit, c'est une uchronie, pas de problème, mais si on dit, voilà, ma thèse, c'est ça, c'est que Napoléon, il n'a pas fait ça, il aurait dû faire ça, et que sur des scènes imaginaires, c'est comme sur du sable. Donc, dans ce cas-là, ça ne va pas.
On y arrivera, parce que j'aurais une autre question à vous poser là-dessus, mais Johan, là, il y a Ordre Noir. On aurait pu mettre Führer Prime Time aussi dans ce thème-là, qui est une nouvelle de science-fiction, mais qui forcément, comme son nom l'indique, a un personnage principal qui est Adolf Hitler.
Qui est le clone d'Adolf Hitler.
Le clone, exactement.
Alors oui, mais là, on est en plein dans la farce d'anticipation et la métaphore. Et d'ailleurs, le propos de ce texte est plus de moquer et démonter les médias que... voilà, la Seconde Guerre mondiale est vraiment très 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 loin de...
Mais quand même très très ridicule.
Oui, parce que voilà, mon idée c'est de me dire si dans quelques années, et sait-on jamais, ça viendra peut-être, nous sommes capables de cloner des êtres humains, et à partir de races historiques, bon là c'est beaucoup plus ambigu, mais qui aura les moyens de faire ça? Vu la faillite qui s'annonce dans tous les États, dont ce ne sera plus les gouvernements, ce sera par exemple les grands networks, enfin les grandes chaînes, qu'elles soient du câble ou du net, peu importe. Et il dit, bon, ils l'utiliseront à des fins ridicules pour attirer le chaland, évidemment. Et donc la scène de ce bouquin s'ouvre par un talk show qui est regardé par des millions et des millions de personnes. Et on débat joyeusement de la Shoah entre le clone d'Adolf Hitler et le clone d'Elvis Presley. Voilà. Évidemment, eux, ils sont, c'est des people, c'est les bons invités qui attirent du monde. Et je pense qu'on arriverait à ce degré d'aberration et de grotesque. Voilà.
Sauf qu'il y a un élément super important, ce que tu viens de dire. C'est qu'Adolf Hitler, il fait de l'audience.
Eh ben oui. Et alors là, pour le coup, c'est un texte que j'ai écrit il y a quand même quelques années. Entre-temps, je pense que ce ne serait plus vrai, mais pour une mauvaise raison. Je suis tombé il y a 2-3 ans sur un sondage qui avait été réalisé auprès d'un très grand nombre d'étudiants américains, états-uniens exactement, et qui montrait que parmi ces personnages célèbres, qui connaissez-vous, enfin, et une très grande partie, j'ai plus les chiffres en tête, mais au moins un tiers, voire la moitié, ne connaissaient pas le nom d'Adolf Hitler, ça ne leur disait plus rien.
Non, c'est sûr que c'était pas plutôt qu'ils pensaient que c'était un personnage de fiction.
Ou alors qu'ils pensaient, voilà, non,
enfin, c'était un truc qui traduisait une certaine confusion.
J'étais tombé de haut en découvrant ça. Donc, effectivement, là, je me dis, je me suis trompé dans ce texte parce que effectivement, dans quelques années, si on veut attirer une nouvelle génération, il faudra trouver d'autres personnes. Oui, on peut se dire, c'est les États-Unis, c'est donc pas le point de vue européen, effectivement, l'approche historique, on parle de la même histoire, peu importe. Même si ça, à la limite, souvent les plus grands historiens de la Seconde Guerre mondiale sont des historiens américains. Mais enfin, double paradoxe. Mais bon, au niveau du grand public, effectivement, moi, ma grande crainte, c'est de dire, on oublie. Disait effectivement, une fois que les premiers descendants, les derniers survivants seront plus là, qu'est-ce qui va se passer? Je suis pessimiste, franchement, sur la perception future, y compris dans le futur proche, de ces événements.
Moi, j'avoue qu'il m'est arrivé une fois en cours d'avoir une élève, une élève de première, qui m'a dit « Auschwitz, c'est qui ?»
Ben oui.
Facile d'enchaîner. Johan, quand même, on est vraiment là dans les genres de l'imaginaire, dans ce qu'on vient d'évoquer, mais je posais la question aux autres sur la réflexion qu'ils ont forcément lorsqu'ils parlent de cette période-là par rapport au ressenti de ceux qui ont vécu la période ou de ceux qui ont été marqués par elle. Est-ce que justement, quand on est dans un genre de l'imaginaire pur, on se pose aussi cette question-là?
C'est inévitable, hein, oui. D'autant que, comme je le disais, je ne pars pas avant d'avoir étudié un tant soit peu, et même un peu plus que ça, la question. Donc c'est inévitable qu'à ce moment-là, qu'on est confronté à l'événement, ne serait-ce que par rapport aux études historiques, évidemment, on se pose la question. Mais ma position après est la suivante. D'ailleurs, on a eu la même discussion ici même hier. Je pense sincèrement que la liberté de l'auteur, elle est totale sur tout événement, mais elle s'accompagne d'une absolue responsabilité. Voilà, il faut prendre sa responsabilité, quoi qu'on dise, quoi qu'on défende. Je ne défends pas des thèses de la femme, il me semble pas, non, rassurez-vous.
Mais justement, je vais me faire l'avocat du diable. Quand des uchronies qui imaginent la victoire du Reich, qui imaginent peut-être quelquefois même que la Deuxième Guerre mondiale n'ait pas lieu, ce qui peut être le cas dans Ordre Noir, est-ce que finalement c'est pas nier la Shoah aussi?
Non, du tout. Mais là, je pense que c'est plus abordé. Enfin, ça, c'est plus un mécanisme assez classique dans les littératures de l'imaginaire, particulièrement de la science-fiction. C'est toujours plus intéressant de renvoyer une société à ses dysfonctionnements. À mon sens, toujours plus intéressant d'écrire une dystopie qu'une utopie. Voilà. Donc, en ce sens-là, quand on fait de l'uchronie, si c'était pour changer les événements et pour finalement faire un livre montrant un monde merveilleux où tout va bien, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'histoire à raconter, tout simplement. Là, c'est un artifice littéraire qui fait que. Et je trouve plus intéressant, moi, de démontrer par l'excès inverse que.
Laurent Binet, dans HHH, on l'a dit, il y a un narrateur qui vous ressemble comme Dogto, quand même, qui raconte en même temps que cette histoire de l'assassinat d'Adrich ses états d'âme. Et il a des scrupules au début, et puis on a l'impression de plus en plus qu'il y a une fascination qui s'installe pour Heydrich.
Non, alors je suis pas d'accord du tout avec tout ce que vous venez de dire. D'abord, il faut que ce soit très clair, et j'espère l'avoir été, que mon pack de lecture ait été clair. Le narrateur ne me ressemble pas, c'est juste moi, c'est moi qui parle en tant qu'auteur. Et justement, je tenais à ça, parce que c'est vrai que j'ai été, c'est un reste de traumatisme de lycéen, peut-être, je me souviens qu'on me disait « attention, attention, ne pas confondre le narrateur avec l'auteur ». Et 9 fois sur 10, le narrateur, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'auteur. Alors, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, la distinction me semblait totalement superflue, vous voyez. Donc là, non, c'est bien moi qui parle. Et en effet, j'ai des scrupules, parce qu'au début, tout de suite se met en place la problématique « comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie ?» Et en fait, je me rends compte que c'est pas si facile, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Mais en même temps, voilà, c'est-à-dire, j'ai bien conscience aussi que le lecteur, d'une certaine manière, il en veut pour son argent, il veut que je lui raconte l'histoire, il n'a pas envie d'avoir un chapitre sur deux, mes états d'âme, ah oui, mais là, elle était peut-être pas verte, la Mercedes, elle était noire. Et donc, progressivement, au fur et à mesure que l'histoire s'accélère, c'est-à-dire qu'on se rapproche du moment de l'attentat, là, je me mets un peu en retrait, et je lâche la bride au récit, si vous voulez, mais mon dispositif a été rodé, et que ma documentation a été telle que je peux, là, raconter l'attentat, raconter les suites de l'attentat, sans me demander les rouges et les noirs, parce que ma documentation m'a permis de, à peu près seconde par seconde, pouvoir le restituer ce qui s'est passé. Et donc, ces épisodes-là, j'espère, en tout cas, c'est ce que je voulais qu'on puisse les lire comme un roman, mais ils sont pas romancés.
Mais quand même, on voit au fur et à mesure que il vous bouffe complètement ce
roman. Oui, alors deuxième truc, oui, la fascination. La fascination, oui, c'est vrai, bien sûr, mais je pense que mes collègues sont d'accord.
Quand je dis fascination, je dis pas forcément que vous êtes converti.
Non, voilà,
soyons très clairs.
Oui, non, mais c'est bien, c'est toujours bien d'être clair avec ce genre de choses. En tout cas, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour faire un bon bouquin, enfin pour essayer de faire en sorte qu'il soit bon, c'est d'être obsédé par son sujet. Donc, en effet, j'y pensais tout le temps. Ensuite, c'est vrai que le personnage d'Heydrich, d'une certaine manière, me fascinait, mais pas du tout en tant qu'être humain, mais en tant que personnage littéraire. Il a eu une carrière, en tant que personnage romanesque, justement, il a eu une carrière et une vie tellement invraisemblable, tellement extraordinaire que justement, c'était un formidable sujet de récit, quoi. Donc à ce niveau-là, oui, il y avait une fascination, mais littéraire.
Oui, moi je trouve que Laurent a raison. On peut être quelque part impressionné, je dirais plus que fasciné, impressionné par quelqu'un, se dire, mon Dieu, mais quel parcours, comment il en est arrivé là, comment il a osé, c'est incroyable comment ils ont pu monter cette solution finale. C'est vrai que c'est impressionnant, mais avoir quand même une répulsion vis-à-vis de ça, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que comment ne pas être traumatisé quelque part par tout ce qu'a réussi à monter Hitler, en se disant mais tout ça c'est vraiment en manipulant les gens, en décomposant les postes à responsabilité. Il n'y a personne qui a la responsabilité totale, toutes des petites responsabilités. Fallait être fort pour faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'on adhère ou qu'on dit ah c'est génial. Non, c'est atroce, mais c'est un monument en même temps, c'est effrayant.
Mathilde, sur ce côté-là, parce que vous mettez quand même en scène un nazi convaincu qui est capable d'aller très très loin. Il a des aspects où en plus vous en rajoutez quand même un petit peu. Il est vraiment odieux, méchant, abominable, tout ce qu'on veut.
Oui, enfin, il est odieux, méchant, mais il le devient. Justement, je cherche à montrer comment il arrive à plonger dans le mal le plus absolu. Alors qu'à la base, en rappelant toujours qu'à la base c'est l'être humain, et effectivement sur cette question de se plonger totalement dans son sujet et d'y être complètement, là je vous rejoins totalement. Moi c'est vrai que je l'ai écrit dans la souffrance, hein, c'est pareil, une énorme documentation, essayer de comprendre aussi la psychologie du personnage, et donc du coup quelque part, pas, je dirais pas jusqu'à m'y mettre dans la peau, mais il fallait vraiment que je connaisse mon personnage à fond et que j'essaie de comprendre à fond pour pouvoir moi-même restituer toute cette évolution du personnage, tout cet environnement autour de lui qui fait que, et moi c'est aussi la question la question numéro un chez moi, c'est comment tout ça, ça a pu se passer, comment il y a des gens qui ont pu en arriver là, et cette question-là, je ne pouvais y répondre que justement moi-même en essayant d'aller très très loin dans l'écriture, dans la compréhension, dans le récit, et du coup, évidemment, du coup, d'en tirer quelque chose de terrible, mais c'était la seule condition pour que finalement ce soit vrai et ça se sente.
En les emmenant sur le front russe, vous vous ajoutez des difficultés supplémentaires parce qu'il faut aussi rendre ce qu'était cette bataille et ce champ de bataille, et on peut imaginer que c'était des conditions qui méritent qu'on s'y attache un peu plus près.
Oui, alors il y a quelque chose d'amusant, c'est qu'en plus le chapitre que j'écris où il fait très très froid, il fait moins 50 degrés, je l'écris en plein été, et puis dans le Albi, donc dans le sud-ouest, il faisait 40 degrés, quelque chose comme ça, et moi je devais m'imaginer qu'il faisait moins 50, qu'il crevait de froid et qu'il y avait des doigts qui tombaient tellement il gelait. Donc voilà, c'est évidemment il y a un gros effort d'imagination, et c'est là où l'histoire rejoint la fiction. Mais donc pareil, un gros travail j'ai lu beaucoup de témoignages justement pour essayer de retranscrire et de recréer une atmosphère et finalement un lieu et une époque que moi-même je n'avais pas connue.
Et là finalement, malgré toutes leurs différences, malgré leurs oppositions, ils se retrouvent dans la même galère finalement, vos deux personnages.
Oui, et c'est là où finalement, c'est là où je voulais aussi en venir. C'est montrer que finalement, deux personnes qui ont des convictions différentes, qui ont des choix, des éducations, des choix de vie différents, se retrouvent par l'absurdité de la guerre, par l'absurdité d'une situation où finalement ils se sont pris dans les mailles d'un filet totalitaire, se retrouvent l'un de gré et l'autre de force, exactement dans la même situation et confondus sous le même uniforme à se battre pour la même cause.
Paul, les secrets de Margaret, c'est aussi l'histoire des bouleversements du XXe siècle, en tout cas pour notre pays, puisque la partie plus contemporaine, elle se passe entre les deux tours de l'élection présidentielle de 81, on va donc avoir un changement important aussi, et finalement on se rend compte que la vie de Margaret, elle est rythmée par les changements, par ces vicissitudes de l'histoire.
Oui, et... Je vais pas répondre directement à ta question, Christophe. Je vais rebondir sur. Je vais y répondre, mais de manière indirecte. Je vais rebondir sur ce que disait Mathilde par rapport au fait de créer un personnage qui est aussi noir, qui choisit le parti de l'ennemi, de l'horreur, d'une certaine manière. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant à un autre niveau. On n'est pas dans la fascination, c'est simplement, je trouve qu'il est toujours intéressant pour un écrivain de montrer comment chacun d'entre nous, on est à la merci d'un dérapage. Il est facile de se dire, une jeune femme qui se fait violer dans le métro, et il y a par quatre mercenaires, et il y a des hommes qui sont là et qui ne bougent pas, qui ne réagissent pas, c'est scandaleux. C'est déjà beaucoup plus difficile quand on se dit « je suis dans la rame de métro, les quatre mecs, ils ont une formation de tueurs, qu'est-ce que je fais ?» Et ça, je pense que c'est un petit peu, enfin, je ne veux pas parler pour toi, mais je me dis que c'est un petit peu cette démarche-là, se mettre dans la peau de l'autre, d'essayer de comprendre comment un être peut en arriver là, et du coup, c'est pas de dire je cautionne, c'est pas de dire j'excuse, c'est plutôt de dire attention, parce que on est tous à la merci d'une dérive pareille, soyons prudents.
D'autant que l'assassin dans Les Silences de Margaret, il agit pas par méchanceté, par un côté très négatif, au contraire.
Non, et là aussi, je pense qu'on a de la sympathie en définitive pour cet assassin, parce que c'est quelqu'un qui va tuer trois personnes, au départ, deux personnes en réalité, mais enfin on va dire trois, parce que
vous mettez le
suspense. Pourquoi on a de la sympathie pour lui? C'est parce que c'est quelqu'un qui voit la souffrance qu'une situation a causée il identifie l'origine de cette souffrance, et ce n'est pas par plaisir qu'il va tuer un homme, c'est parce qu'à un moment il dit, là, ça, il y a eu trop de souffrance à cause de ces personnes, et donc il se fait justicier quelque part. Et bon, là c'est vrai que dans ce cas-là, j'ai de la sympathie pour mon personnage, parce que je ne le cautionne pas, mais je peux comprendre que dans un cas pareil, on dérape. Et tous ces gens ont traversé l'histoire, ont été quelque part ballottés par l'histoire, et je ne raconte pas la guerre, je raconte le destin d'individus qui ont traversé cette période et toutes les souffrances qui en ont résulté pour le monde, puisque je développe quand même des drames, pour eux et aussi pour leurs enfants, pour la famille, pour l'entourage, qui eux n'ont pas été directement touchés par les événements, mais qui en reçoivent quand même le retour de flamme.
Joanne, c'est un peu pareil dans Ordre Noir, que ce soit Avery, que ce soit le personnage de l'avocat, Ménard, c'est ça, Mathieu. Non, mais son grand-père plutôt. Ils sont très ambivalents.
Oui, parce que, à nouveau, je ne crois pas au manichéisme de toute façon, ni dans les faits, donc, ni en histoire, ni dans la réalité. Et, ils sont tout autant acteurs que victimes des circonstances.
Ils se croisent un peu, c'est-à-dire qu'il y en a un dont on pense au départ qu'il a un côté très positif, et finalement, ouais. Il va devenir beaucoup plus sombre au fur et à mesure que l'histoire avance. Et l'autre, dont on pense qu'il est beaucoup plus sombre, au contraire, va aller vers une rédemption.
Mais disons, voilà, chaque personnage évolue effectivement, oui. Et donc la question...
Donc j'ai répondu dans la question.
Non, d'accord. Je peux que confirmer, oui, l'évolution de chacun des personnages au gré des circonstances.
Et au gré des changements aussi de dimension, puisque... Tout à fait. Moi, en lisant le livre, ça me rappelait la série Fringe.
Ça, je ne l'ai pas vu. Donc,
où on change aussi d'univers et en fonction des univers, okay. on a des personnages qui sont
mais
très...
Mais de toute façon, je dis voilà, mais l'artifice de mes changements d'univers, ça veut dire ça, c'est vraiment pour montrer que en changeant de perspective, effectivement, la lecture de l'événement, la lecture de l'histoire, elle peut changer, elle peut évoluer, oui, tout à fait.
Bon. Alors, j'ai une question qui va peut-être paraître un petit peu absurde, mais...
je suis prêt.
Tes premiers romans, c'était la trilogie de la Lune. Et il se trouve que tu as fait le choix de ne traiter ni de la Première ni de la Deuxième Guerre mondiale dans cette trilogie de la Lune.
Et bien elles sont là en...
Elles sont en filigrane, mais les actions ne s'y passent pas.
Je ne les ai pas abordées directement, effectivement, parce que à titre personnel, je suis davantage intéressé par ce qui précède, par les mécanismes qui se mettent en place dans l'histoire et qui aboutissent aux événements. À la limite, bon, ensuite, je dirais que les événements peuvent rester suffisamment connus au jour d'aujourd'hui. Mais c'était pour moi plus intéressant de voir donc, la fin du 19e siècle, tout début du 20e, donc et les germes de la Première Guerre mondiale. Et surtout dans le deuxième roman, La Lune n'est pas pour nous, c'était pour moi plus intéressant de m'intéresser aux années 30, aux montées des fascismes, etc. Même si là, ça rentre par le biais de la chronique très très décalée. Mais voilà, je suis plus intéressé par ce qui précède, par ce qui permet d'expliquer, comprendre avec notre recul d'aujourd'hui, parce que en vivant l'événement sur le coup, bien sûr. Ce serait facile de jeter la pierre à...
Et comme par hasard, le troisième volet, il se passe aux États-Unis.
Dans les années 50. Mais alors là, je laisse imaginer ce qui peut se propager. Je ne sais pas. Je laisse la face suffisamment ouverte. Bon, ce n'est pas forcément pour annoncer une grande catastrophe. Je ne crois pas à l'apocalypse. Il nous reste un an à vivre, je crois, d'après les calendriers mayas. Donc, mais, non, non. Et oui, il se passe aux États-Unis. Parce que, tout simplement, parce que bon, il se passe aux années 50. Et les germes de nos sociétés modernes, ils sont là. Enfin, notre société... de consommation, etc. Je ne vais pas faire le détail moderne, elle se bâtit là. Là où ça se passe, là où les mécanismes se mettent en place.
J'ai gardé la dernière question, vache pour Laurent Binet. Le postulat de départ, c'est un auteur qui écrit un roman historique en avant d'emblée qu'il n'aime pas ça. Est-ce que vous avez changé d'avis sur le roman historique?
Non, non, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, mais disons, bon, la littérature se nourrit de paradoxes. Il y a une certaine forme de roman historique que j'ai... les romans historiques, j'aime bien. En fait, ce que j'aime pas, c'est une certaine forme de roman qui est la forme majoritaire aujourd'hui, c'est le roman réaliste et psychologique. J'aime pas tellement ça. Mais ça, ensuite, il faut voir au cas par cas. Et c'est vrai que moi, je reproche à certains romans historiques de trop romancer, alors que, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, Les Bienveillants, je trouve que ça en dit moins que ça en a l'air sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça. Ça parle pas tellement finalement d'histoire, Bah voilà, mais dans ce cas-là, il y a un malentendu, si vous voulez.
C'est un sujet sur la monstruosité.
Voilà, mais moi, Les Bienveillantes, quand même, on me l'avait vendu en me disant que ça parlait quand même un peu de Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que personne ne peut dire que c'est pas un peu l'intention du livre, quand même. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est pas le sujet, d'accord. Et ben, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas tellement les histoires avec la sœur, là, du mec qui tue ses parents, il couche avec sa sœur, il se roule dans ses esprits. Vraiment. Mais pourquoi pas, mais si vous voulez, du coup, la Deuxième Guerre mondiale, je trouve, il y a un truc qui colle pas. En même temps, il y a des romans qui fonctionnent sur ce modèle que moi je refuse et que j'adore. Pour moi, l'un des plus grands romans du XXe siècle, c'est Vie et Destin, qui est en effet, qui marie allègrement fiction et réel. Donc évidemment, c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que j'ai adopté ce dispositif là pour en opposition à quelque chose qui se faisait un peu trop souvent à mon goût, mais sans préjuger de la qualité du résultat que peuvent donner un dispositif ou un autre.
Voilà. Vous avez rencontré des lecteurs qui vous ont dit que finalement vous êtes un homme, on s'en foutait un peu.
Personne me l'a dit en face, en tout cas. Mais oui, j'ai lu quelques critiques sur Internet, et notamment Au Masque et la Plume, Olivia Lamberterie, la critique de Elle, critique littéraire donc, du magazine Elle, a dit ça à peu près texto, ces états d'âme, on s'en fout. Tous ces commentaires-là, il aurait dû les foutre à part, vraiment, s'il tenait à nous les raconter, il aurait dû les mettre à part et en faire une préface, c'est-à-dire ce qui annulait toute la spécificité de mon livre. Et donc, pour moi, évidemment, forcément, on n'est pas d'accord, mais pour moi, elle a pas compris du tout ma démarche, quoi. Et ni les enjeux. Moi, je pense qu'il y a vraiment des enjeux dans les problèmes que je pose. Je prétends pas y répondre, je prétends pas apporter des solutions à tout, mais je pose des questions. Justement, j'interroge le genre. Et je pense qu'un roman, enfin, l'essence même du roman moderne, quand même, disons, ce qui fait la modernité d'un roman depuis, quand même. Don Quichotte, bon là évidemment je vais être très péremptoire, hein, mais c'est quand même sa faculté à se questionner en tant que genre. Mais je vois bien qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas envie de ces questions et qui n'ont pas envie de ni d'essayer d'y répondre.
N'empêche que vous ne seriez pas aux imaginales si le roman avait été publié de la manière dont la critique de Elle voulait que vous fassiez.
Je pense pas, c'est pour ça.
C'est aussi pour ça que j'avais parlé à Stéphanie de ce livre et que j'avais vraiment envie de vous recevoir ici. C'est justement que j'ai trouvé ce mélange extrêmement original et que pour moi, et d'ailleurs je suis ravi qu'elle ait choisi de faire sous cette forme-là, c'est-à-dire quelle forme donner à la fiction. Sur un sujet identique, hein. C'est vrai qu'ici on parle souvent du roman historique ou de la science-fiction ou de la fantasy en les déclinant sous des genres et des manières de faire très différents. Là on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un sujet qui est la Deuxième Guerre mondiale, on regarde comment chacun d'entre vous arrive à le décliner, et pour moi ce que je trouvais intéressant c'est que c'est quelque chose de très original, quelque chose que je n'avais jamais lu jusque-là, et moi c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça que j'avais envie que vous soyez avec.
Ben voilà, il faut dire ça à Olivia Lamberterie.
Je lis pas beaucoup Elle, faut dire, mais enfin. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre. Et puis évidemment, vous allez pouvoir continuer les discussions autour de ces livres sous la vue du livre pendant encore quelques minutes, parce que je sais qu'il y a certains auteurs qui vont repartir très rapidement, mais ils vont encore avoir le temps de vous signer peut-être quelques livres si vous le souhaitez. Merci beaucoup.
Merci.